Vous pouvez prendre place. J'aimerais premièrement offrir mes sympathies, mes condoléances à toute la famille, tous les amis qui sont ici présents ce matin, pour Mme Leblanc qui nous a quittés la semaine passée et qui maintenant repose en paix. Mon nom est Denis Arcand, je suis pasteur de l'Église chrétienne évangélique de Hawkesbury. J'aimerais vous parler un peu de notre rendez-vous avec la mort. Aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup d'enseignements sur la Bible, mais la prédication de l'Évangile du salut, qui est importante, est rarement entendue du haut de la chair. L'Évangile du salut, faut qu'elle soit entendue par tout le monde. Le Seigneur Jésus, avant de quitter dans Matthieu 28, nous dit ceci, « Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. » Pourquoi cette prédication-là est tellement importante? Bien, c'est parce qu'elle parle de plusieurs grandes questions qu'on se pose de la vie et de la mort. Parce que la mort, pour nous, c'est un fait évident, mais c'est inconnu. On doit se rappeler des questions sur la vie et sur la mort que nous pose l'Évangile. Écouter la prédication de l'Évangile, bien, ça nous garde près de Jésus. C'est par le biais de cette prédication-là que les paroles de la Bible sont placées dans le cœur de tous les hommes, de toutes les femmes. Et seule cette prédication-là, celle de l'Évangile du salut, peut faire ça. Et prêcher le salut peut, en même temps, saisir l'attention de celui qui est perdu et lui faire entendre la parole ou les paroles du Seigneur. Cet après-midi ou ce matin encore, parce qu'il est en seulement 11 heures, je vais vous parler de ce rendez-vous-là qu'on a tous avec la mort. La mort à laquelle chaque personne qui m'écoute ce matin devra un jour faire face. Moi y inclus. J'ai lu tantôt, ou je ne l'ai pas lu encore, mais le texte de la Bible que je me base sur pour cette prédication, c'est qu'il est réservé, et ça se trouve dans l'Épître aux Hébreux, il est réservé aux hommes de mourir une fois. Et après cela, vient le jugement. Vous savez, j'ai assisté à plusieurs funérailles, dont celle de ma belle-mère, il n'y a pas tellement longtemps, quelques années passées. Et lorsque je me suis approché du cercueil, j'ai remarqué que l'embaumeur avait fait un bon travail, il avait bien maquillé, elle avait de l'air naturelle. Ils ont placé son corps dans un cercueil doublé de satin, ils ont mis des belles fleurs autour, ils ont fait de leur mieux pour lui donner une belle apparence. Et vous savez quoi? La mort, là, n'est pas belle. C'est toujours horrible, la mort. Ne laissez personne vous dire le contraire. La mort, c'est l'ennemi de l'homme. Et la Bible appelle la mort le dernier ennemi dans 1 Corinthiens, l'Épître de Paul aux Corinthiens. Mais c'est l'ennemi, c'est un ennemi auquel on va avoir à faire face, on va devoir le rencontrer. Parce qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et après vient le jugement. Et étant donné que nous allons tous mourir un jour, bon, on doit savoir ce que la Bible dit au sujet de la mort. Premièrement, la Bible nous avertit sur l'origine de la mort. Comment se fait qu'on meurt? Eh bien, dans le Jardin d'Éden, c'était un endroit beau. Dieu a créé la perfection parfaite pour la demeure de l'homme et de la femme. Le péché et la mort n'y étaient jamais entrés. Mais le Seigneur a dit à Adam, « Tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ils ont mangé de ce fruit interdit et ils sont morts, premièrement, spirituellement, dès ce moment-là. Et à partir de ce moment-là aussi, la mort physique a commencé à œuvrer dans leur corps. Jésus a souvent parlé de la mort. La Bible nous dit que la mort est venue à cause du péché. Quand le premier homme a péché, Adam et Ève, la mort a été transmise à tous ceux qui descendent d'eux. Vous et moi, déjà, on a les semences de la mort dans nos corps. Hein? Il y en a peut-être que les dents commencent à carier. Il y en a qui perdent leurs cheveux. Il y en a qui ont des cheveux gris. Nos yeux s'affaiblissent. Les cellules cancéreuses, des fois, commencent à se former dans nos corps. Le cœur s'affaiblit chez d'autres. La tension artérielle augmente. Il y a des petits-enfants qui meurent du cancer, de la leucémie, puis beaucoup d'autres maladies qui qu'on soit, la mort va venir à notre rencontre. Vous pouvez me dire, moi, je n'ai pas peur de la mort. Ou bien dire, ce qui serait l'idéal, la mort ne me fait pas peur parce que j'ai placé mon espoir en Jésus-Christ qui a conquis la mort. Jésus est ressuscité. Et si vous n'êtes pas encore un chrétien né de nouveau, vous devriez avoir assez de bon sens d'avoir peur. Parce que la mort va mettre un terme à toutes vos occasions d'être sauvé. Il n'y a plus rien d'autre que tu peux faire après. Tu ne peux pas prier pour un mort après qu'il est mort. Il est mort. Après, il est trop tard. Et rappelez-vous ceci, la mort peut arriver n'importe quel temps. Le Seigneur dit, je vais venir comme un voleur. Et encore une fois, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et après ça, vient le jugement. Il y a un vieux cantique qui dit, le temps s'envole, les moments passent. Ils passent pour vous et pour moi. Les ombres s'annoncent, le lit de la mort s'approche, il vient pour vous et pour moi. Revenez à la maison, revenez à la maison. C'est Dieu qui nous appelle de revenir à lui. Vous qui êtes là, revenez à la maison. Doucement, tendrement, Jésus appelant le pécheur, reviens à la maison. Deuxièmement, c'est que la Bible nous avertit de ce qui se passe après la mort. Qu'est-ce qui arrive à un chrétien qui a mis sa foi en Dieu, qui est né de nouveau? Paul dit dans une de ses épîtres, être absent du corps, être présent avec le Seigneur. Le corps, il devient absent parce que tantôt, Mme Leblanc va être enterrée. Et là, elle sera absente parmi nous. Mais présentement, la minute qu'elle est décédée, elle était dans la présence de Dieu avec le Seigneur. Et quand un chrétien meurt, son corps va dans la tombe, mais son esprit, son âme, immédiatement, va avec le Seigneur. Jésus a dit au voleur qui était crucifié à côté de lui, le bon larron, comme on l'appelle, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Pas après avoir été à quelque part pour purger ta peine, pas demain, pas dans 100 ans, aujourd'hui même, parce que cet homme-là a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu, que lui était mort sur la croix pour le péché de tous ceux qui vont se repentir. Donc la mort ne fait pas peur à un chrétien qui est né de nouveau, parce qu'on s'en va vers de quoi de meilleur. C'est triste, parce qu'on perd une personne qui était près de nous. Moi, j'ai connu Mme Leblanc 13 ans passés. C'était à peu près notre première visite pastorale avec Monsieur Bourbonnais puis Mme Leblanc. Ils nous ont accueillis comme... C'est incroyable de voir ces personnes-là. Et on savait que c'était les doyens de l'Église. Et tout de suite, on les a aimés, puis on a vu que c'était un homme et une femme qui aimaient le Seigneur. Mme Leblanc savait qu'elle était mourante. Et lorsque moi et mon épouse, on lui a rendu visite dernièrement à l'hôpital de Hawkesbury, on sentait qu'elle était en paix. Elle était en paix. Elle n'était pas tourmentée par le fait qu'elle était pour mourir. Elle était en paix parce qu'elle était une véritable chrétienne, qu'elle a mis sa confiance en Dieu. Et elle est maintenant en présence de Jésus, son Sauveur. Mais qu'est-ce qui arrive à une personne qui ne se convertit pas au moment de la mort, celle qui ne croit pas en Dieu ou en Jésus? Chapitre 16 de l'Évangile de Luc nous dit ceci, qu'il y avait un homme riche qui est mort, il a été enterré, et il s'est retrouvé en enfer. Et là, il levait les yeux vers le ciel, il était tout le temps dans les tourments. Après la mort, ce qui arrive, c'est que si tu n'es pas sauvé, il y a le supplice de l'enfer qui vient pour tous ceux qui ont rejeté le Christ et qui ne sont pas encore nés de nouveau. Leur corps va dans la tombe, mais leur âme va vers la douleur éternelle. Jésus a dit, « Et ceux-ci iront au châtiment sans fin. » On voit ça dans Matthieu 25, verset 46. Est-ce qu'il y a une autre chance après la mort? Si on vous a dit que oui, on vous a conté des histoires. Ça n'existe pas le purgatoire, ça n'existe pas les endroits où ce que on a une autre chance après être mort d'être sauvé. Abraham a répondu à l'homme qui était en enfer tantôt, « Il y a trop un grand espace qui est établi entre nous et vous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici à nous, ne le peuvent pas. Et ceux qui voudraient passer de là jusqu'à nous, ne peuvent pas non plus. À sa mort, l'homme perdu va être du mauvais côté du gouffre qui se situe en enfer. Et ça, pour l'éternité. Christ, un matin, nous appelle, vous appelle à venir à lui maintenant. Ce n'est pas la religion qui sauve. Moi, je ne suis pas dans une religion, je m'excuse. Religion, c'est des religions d'hommes. Je suis un chrétien de nouveau et je suis un adepte du Seigneur Jésus, c'est-à-dire que j'aime sa parole, la Bible, et que j'essaie de marcher comme je peux, parce que j'en ai pas parfait personne. Le Seigneur vous appelle. C'est pas la religion qui sauve, mais c'est Jésus-Christ seul. La Bible dit qu'il n'y aura pas aucune chance après notre mort. C'est maintenant ou jamais. Et finalement, troisièmement, la Bible nous avertit de la soudaineté de la mort. Ça va arriver n'importe quel temps. Ça peut arriver n'importe quel temps. Au début de l'année, j'ai failli mourir. Je suis tombé dans un coma diabétique. J'ai fait une insuffisance rénale. Mais la prière de l'Église, les gens qui étaient autour de nous, bien, ça m'a sauvé. Puis aussi, l'hôpital, les docteurs, les médecins. Plus de la moitié de tous les décès, c'est des morts soudaines. Les accidents d'automobile, les meurtres, les suicides, les guerres, les crises cardiaques. Il n'y a pas quelqu'un qui vient t'avertir avant pour dire que ça va arriver. C'est des morts soudaines. Et la grande majorité de ceux qui meurent de cette manière n'ont pas le temps de se repentir ou de mettre leur confiance en Jésus-Christ. « Oh, on va faire ça plus tard. Oh, je vais avoir le temps. » Non, c'est là. C'est maintenant. Donc, ils vont quitter cette vie pour rencontrer Dieu. Puis c'est lui qui juge, c'est pas moi. Moi, je juge pas personne. Mais c'est Dieu qui va juger s'ils vont passer l'éternité avec lui ou en enfer. La Bible dit, celui qui était souvent repris, raidit son coup. Hein, ça veut raidir le coup quand on ne veut pas. Sera subitement brisé. Et cela sans remède. On voit ça dans les proverbes. J'ai connu des personnes qui sont mortes soudainement, des amis, non préparées à cette rencontre avec Dieu. Et lors de ces situations tragiques-là, vous savez, c'est impossible de donner quelque espoir aux parents qui sont affligés. Tout ce que je peux faire, c'est de prêcher l'évangile du salut à ceux qui sont encore en vie. Moi, je suis joyeux du fait que Mme Leblanc, elle célèbre en haut avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a mis sa confiance en lui. Si vous deviez mourir soudainement dans les prochains jours, où allez-vous passer l'éternité? Allez-vous pouvoir dire avec l'apôtre Paul, « Pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir, c'est un gain. » Paul a dit ça aux Philippiens, hein, dans Philippiens 1, 21. Ou vous allez partir dans l'éternité sans l'espoir d'être avec Christ. Pour vous, ça sera peut-être l'enfer. C'est une question qui est grave, la question la plus sérieuse à laquelle vous n'aurez jamais à faire face, parce qu'il est réservé, encore une fois, aux hommes de mourir une seule fois. On ne meurt pas deux fois. Et après ça, vient le jugement. Jésus est mort sur la croix. Hein? Le vendredi saint, qu'est-ce qu'on célèbre? Pour payer la pleine pénalité de nos péchés. Il a versé son sang pour nous purifier de tous nos péchés. Il est ressuscité d'entre les morts parce qu'il n'est pas resté dans le tombeau pour nous donner la vie éternelle. Mais il faut demander, premièrement, pardon à Dieu, pas à quelqu'un d'autre. On demande pardon à Dieu pour nos péchés. Et ensuite, après s'être repenti, on croit que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, pour nous délivrer de ces péchés-là, pour nous pardonner tous les péchés passés, présents et à venir, parce que oui, on va continuer à en faire d'autres, malheureusement. Tant qu'on va être dans ce corps de pécheur-là, ça arrive. Il faut croire en lui, le recevoir comme son sauveur personnel, puis ensuite, marcher, comme la Bible dit, mais du mieux qu'on peut. Lui demander son aide, parce que tout seul, on n'est pas capable. Si vous faites cela, vous avez la vie éternelle. Il n'y a pas de chose de plus simple que ça, que de croire puis de marcher. Sinon, il n'y a aucun espoir pour vous. Vraiment, aucun. Et c'est pourquoi je vous invite à faire ce petit pas de foi-là. Vous savez, un enfant, là, quand on le place là, sur le bout d'une table, là, on lui dit « saute dans les bras à papa ». Il ne pose pas 56 000 questions. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il saute. Il saute parce qu'il a confiance que papa va l'attraper. Saute dans les bras de Jésus. Jésus va t'attraper. Faites ce pas de foi-là. Croire que Jésus est venu sauver des pécheurs comme nous. Moi le premier. Et de commencer une véritable relation avec Christ et son Église. Ce n'est pas une religion, c'est une relation. Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est ce que dit Paul à Timothée. Et combien je prie que vous soyez l'un de ceux, ou plusieurs de ceux, que Jésus sauve d'une vie et d'une mort sans espoir. Je vais terminer avec cette prière qui va terminer, évidemment, le service pour moi. On va se courber. Prions Dieu. Notre grand Dieu et Père Tout-Puissant, nous venons devant toi, reconnaissant que nous sommes des pécheurs et que nous commettons le péché à tous les jours. Ta parole est claire, et si nous nions avoir péché, nous faisons de toi un menteur. Notre péché est toujours devant nous, et nous voulons d'abord confesser nos péchés, sachant que tu es fidèle à nous pardonner, et que tu apportes ta justice pour nous purifier de l'accumulation de nos péchés de tous les jours. Dans un même souffle, on te remercie, Seigneur, pour les gloires de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, et en particulier la communion dont nous jouissons avec toi et ton Fils Jésus. On ne peut pas trouver suffisamment de louanges pour te bénir. Ce que tu as fait pour nous dépasse notre compréhension. Nos pauvres esprits ne peuvent pas sonder l'immensité de ta grâce, mais nous savons que tu es beaucoup plus digne de ce que le langage humain pourrait jamais exprimer. Nous avons confiance que tu reçois les simples remerciements de tes enfants. Merci pour les miséricordes quotidiennes. Tu nous combles avec le confort et les bénédictions de la vie, la joie de la famille et des amis, l'amour de l'Église et d'innombrables autres bonnes choses que tu nous donnes richement à apprécier. On te remercie, Seigneur, spécialement pour les Saintes Écritures, pour ta parole, la Bible, la parole de vie. Comment pourrions-nous vivre sans ta vérité? Elle nous conduit à la repentance quand nous péchons. Elle nous donne des promesses pour la vie et elle encourage notre cœur à aimer et à poursuivre la sainteté. Nous sommes dans l'attente pour aller au ciel. Mais pour l'instant, nous vivons dans un monde où nous sommes encore assaillis par le péché, l'échec, la faiblesse. Et Père, on confesse que nous trébuchons et tombons à chaque jour. Nous demandons donc au Dieu que ta parole domine notre pensée, purifie nos consciences et contrôle notre vie afin que les gloires du Christ et la puissance transformatrice de l'Évangile soient clairement exposées en nous. Merci pour ce pardon continuel de tous nos péchés. Merci pour la grâce qui est en Jésus-Christ, notre Sauveur. On te remercie pour le grand amour avec lequel tu nous as attirés à toi. Une telle faveur divine est quelque chose que nous ne pourrions jamais mériter. Tu l'as simplement donné parce que nous l'avons demandé par la foi que tu as toi-même gracieusement suppléé. Seigneur, nous nous accrochons au Christ, au nom duquel nous te prions, en demandant en conclusion qu'à travers lui, nous pourrions apporter honneur et gloire à ton précieux nom. Amen. Je ne sais pas si le directeur du salon est ici. Bon, qu'est-ce qui se passe après?
Ben, normalement, on s'en va au cimetière bon. Saint-Histoire.
OK, fait que là...
Puis suite à ça, il va y avoir un buffet à la salle à Fournier pour tout le monde.
À Fournier?
Oui.
OK, donc...
la salle municipale.
Salle municipale de Fournier. Donc, tous ceux qui sont ici sont invités. Et donc, on se dirige vers le cimetière de Saint-Isidore. Excusez-moi. Et merci pour votre présence. Et encore une fois, mes plus sincères condoléances. Amen.